À bout de souffle. Rencontre avec Jean-Christophe Bailly. Jean-Christophe Bailly est écrivain. Il est l'auteur de nombreux livres, recoupant la plupart des genres, du poème à l'essai, du théâtre au récit. Il a récemment publié Le versant animal et L'atelier infini. Jean-Christophe Bailly est venu à la librairie Le Livre à Tours à l'occasion de la parution aux éditions du Seuil de L'instant et son ombre, un essai. À partir d'une image de Talbot, l'une des 24 planches du Pencil of Nature, le premier livre de photographie jamais publié, mais aussi de celle de Hiroshima et de l'homme soufflé, Jean-Christophe Bailly élabore un véritable récit de formation qui interroge la puissance fictionnelle de ses apparitions. Entre la paix de la campagne anglaise et la violence anéantissante de la bombe atomique, c'est tout le destin de la photographie qui se joue. Rencontre donc, proposée par Laurent Évrard, avec Jean-Christophe Bailly, pour L'instant et son ombre.
Bonsoir. Nous avons une nouvelle fois la joie d'accueillir Jean-Christophe Bailly ce soir. Je vous remercie d'être présent, comme nombreux comme souvent, à nos rendez-vous. Et Jean-Christophe vient aujourd'hui nous présenter son dernier ouvrage, L'instant et son ombre. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ou pas encore, Jean-Christophe Bailly est écrivain. Il a publié un grand nombre d'ouvrages dans des genres et dans des domaines qu'on pourrait considérer comme différents, mais qui finalement se recoupent les uns les autres. En tout cas, de l'un à l'autre, fonctionnent comme, pour reprendre le si beau titre d'un des ouvrages de poésie qu'il a pu écrire, comme une base continue. Ayant lu la plupart de ses livres, chacun de ses livres est pour moi comme un événement, puisqu'il annonce et ouvre à chaque fois un nouveau questionnement, mais aussi me fait retourner sur tous les autres, puisqu'il est aussi, chacun de ses livres, nouveau, est aussi un éclairage sur les précédents. Donc il y a une espèce de constance chez lui des questionnements. L'instant et son ombre, qu'est-ce que ce livre ? C'est un essai. Un essai sur quoi ? Sur peut-être la photographie. En tout cas, un essai qui parle du premier livre de photographie paru dans l'histoire. L'ouvrage, un ouvrage composé de 24 planches, de William Henry Fox Talbot, un ouvrage en français, le pinceau de la nature, Pencil of... Vous excuserez mon anglais, of nature. C'est donc un ouvrage sur la photographie. C'est peut-être un ouvrage sur la photographie. C'est un ouvrage sur cette photographie-là, sur une autre qui vient hanter la première, à moins que ce ne soit la première qui vient hanter l'autre. C'est peut-être l'histoire du télescopage de ces deux photographies. C'est peut-être l'histoire de la mémoire de ce télescopage. Mais essentiellement, c'est un grand livre sur la question de la mémoire. Et cette rencontre s'inscrit ni plus ni moins que dans celle que nous avons organisée depuis un certain temps, depuis l'avenue de Carlo Severi, sur la question des supports de mémoire. Peut-être que la photographie est elle aussi cela, un support de mémoire. Une question hante aussi tout ce livre, qu'est-ce qui se souvient ? Je vais rapidement laisser la parole à Jean-Christophe pour présenter son livre. Mais je vais vous lire un court extrait de son livre qui, à mon sens, est comme le nœud de son ouvrage. En tout cas, un des nœuds. puisque son ouvrage évoque une infinité de choses, extrêmement concentrées, extrêmement dans une grande compacité. Le fait que chaque image soit potentiellement le recel d'une autre, le fait que l'univers de ces fixes, que sont les images, soit en permanence tramé et au fond tenu par une connectibilité latente, et donc par une mobilité constante, ce sont là des vecteurs de relance de l'histoire des formes d'une grande puissance de rayonnement. L'une des conséquences, et non des moindres, de la mise en évidence de ce champ d'agitation immanent, c'est de légitimer les sautes historiques, c'est de donner de la profondeur à ce qui échappe au régime traditionnel d'historicité. Le montage découpe une histoire interne des images qui surfe librement sur la chronologie. À une logique d'empilement et de mise en parallèle, une vision stratigraphique du temps, se substitue à la pure activité qui, par des sortes de jets obliques, établit une possibilité infinie d'évasion. Il ne s'agit certes pas d'aligner l'énergie avec laquelle une histoire, celle-là même qu'on appellerait l'histoire, se construit de façon malgré tout objective. La question est seulement de libérer, à côté d'elle, la puissance germinative de ces rapports latents que l'histoire effective effectuée ne recouvre jamais entièrement. C'est là ce que l'on pourrait appeler la dimension benjaminienne du montage, la façon dont celui-ci, en tant qu'art de la pensée ou de la mémoire, mais mémoire et pensée sont ici synonymes, libère de chaque trace du passé, par exemple d'une image, une énergie qui demeurait en suspens, qui était, pour ainsi dire, à la fois présente et cachée.
Merci Laurent, merci à vous d'être là, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de venir à Tours dans cette librairie. Et pour des raisons qui sont faciles à comprendre, puisque c'est une librairie où un écrivain qui s'efforce de poursuivre le sens comme je le fais se sent évidemment tout à fait chez lui. Voilà. Et donc ce livre-là, L'instant et son ombre, c'est un essai, mais qui croise un petit peu la forme du récit. Pourquoi ? Parce que justement, il est entièrement structuré à partir du rapport de deux, comme vient de le dire Laurent, de deux images. Et qu'au fond, le livre entier est le voyage intellectuel et sensible qui va de cette première image à l'autre. Et ce n'est pas une construction de mon esprit, c'est que la seconde image est venue immédiatement, presque immédiatement. Il y a eu un petit, comme on dit, un mot sur la langue qu'on n'arrive pas à retrouver. Il y a eu une image dans la tête que je n'arrivais pas à retrouver. Et puis elle a fini par venir, donc j'ai identifié. Donc la première image, pas la peine de faire l'énorme mystère, c'est une des planches donc de The Pencil of Nature de William Henry Fox Talbot. Donc j'en dirai quelques mots. C'est une photographie donc très très ancienne, une photographie de 1844 et qui représente une meule de foin avec une échelle posée contre. J'en redirai trois mots. Mais en voyant cette photographie, elle est connue, hein, on la traîne dans pas mal de bouquins d'histoire de la photographie, pour les gens qui s'intéressent aux origines de la photographie, elle est presque commune autrement. Mais je la connaissais sans doute, n'étant pas moi-même un spécialiste de tout cela, mais elle ne m'avait pas frappé. Et je raconte dans le livre comment c'est inopinément, au fond, en visitant le musée Nicéphore Niépce à Châlons, sur Saône, elle était à vendre sous forme de petite carte postale. Et je suis très friand de ces objets, les cartes postales, parce que, enfin, les cartes postales, ce type de carte postale-là, plutôt, et parce que, bon, je pense qu'il y a une, comme une légitimité physique de l'objet isolé, quoi. C'est une image absolue. Et puis ce côté de petit carton qu'on peut mettre à la bibliothèque, qu'on peut mettre dans le coin du miroir, qu'on peut envoyer par la poste. C'est une espèce de plasticité mentale qui est formidable avec la carte postale. Et puis, elle s'est mise à m'intriguer énormément. Et je la regardais. Je la trouvais de plus en plus belle, de plus en plus étonnante. Et elle m'a donné envie de travailler, d'en savoir plus. Parce que sur Fox Talbot, dont j'étais loin de connaître le travail, au fond. Et puis, mais elle me rappelait quelqu'un. Comme on dit. Exactement, oui. Comme elle me rappelait. J'ai dit quelqu'un exprès, quoi. Elle me rappelait quelqu'un. Et j'ai trouvé assez vite que, la photo à laquelle elle me faisait penser. Et c'est une photo qui est beaucoup plus connue, malgré tout. C'est une photo tout à fait différente, dans, à tous égards, dans son contexte. Elle est prise à Nagasaki. Et c'est une photo qui montre une échelle, mais surtout derrière, dans la palissade de bois du devant de la maison, l'ombre brûlée, par le flash de la bombe, l'ombre brûlée d'un homme, on dit une sentinelle, mais enfin on n'en sait trop rien, qui était là. Et en fait, il y a l'ombre de l'échelle et l'ombre de l'homme à côté qui sont imprimées par le flash de la bombe. Donc il s'agit de la photo d'une sorte de photo. C'est la photo d'une photo, le souvenir d'une photo. Une photo involontaire, une photo faite par la bombe atomique elle-même. Et évidemment, c'est comme dans les rêves, évidemment que ce qui fait le lien, c'est l'objet transitionnel, comme disent les spécialistes, c'est l'échelle, c'est évident, hein, que c'est l'échelle qui m'a aiguillé d'une photo à l'autre. Mais alors, ça s'est mis à avoir une telle consistance pour moi, ce rapport entre ces deux images, que j'ai essayé, au fond, de raconter ce qui avait bien pu conduire mon inconscient visuel, si on peut dire, de l'une à l'autre. Donc de raconter l'histoire qui conduit d'une photo qui est faite dans la joie de la découverte d'un art, dans la joie de l'invention d'une technique, avec toutes les hypothèses assez formidables d'ailleurs que pouvait faire Fox Talbot, et puis une photo qui est une photo de la catastrophe, qui montre non seulement quelque chose d'une catastrophe, mais qui montre que la photographie a à voir ou aurait à voir avec le catastrophique. Et le hasard fait que donc là, on est en 1844, et là, on est en 1945, et que dans cet espace-là, disons, c'est tout l'espace aussi de naissance de ce qu'on peut appeler la modernité qui s'est dépliée, déployée. Voilà. Alors ça, c'est le livre comme ça. Donc, et au fond, c'est une énigme, une double énigme que j'ai cherché à résoudre. C'est pour ça que le livre a un peu, d'un certain côté, l'aspect d'un récit, du moins pas un récit plein de suspense, etc., mais au moins le récit de par lequel j'essaye de retracer ce qui a pu me conduire d'une image à l'autre et ce qui les relie finalement, et ce qui fait que derrière l'apparence de la photo prise au printemps 1844, qui est une photo mise en scène, etc., qui est faite pour, hein, comment en même temps peut-être de la catastrophe est déjà présente à l'intérieur de cela, et comment il n'y a pas noir et blanc, même en photographie, mais toujours du blanc sous le noir et du noir sous le blanc, et grâce à cela tout autre chose que de la grisaille. En tout cas, quelques mots sur le livre de Fox Talbot. Ce livre, The Pencil of Nature, il est merveilleux, évidemment, c'est le premier livre de photographie. Pourquoi ? Parce que Fox Talbot, vous savez qu'il y a une grande rivalité entre les Français et les Anglais pour savoir qui a fait quoi. C'est pareil pour la vapeur. Pour nous, c'est Denis Papin. Pour eux, c'est Watt. Et pour la photographie, pour nous, c'est Daguerre. Et pour eux, c'est Fox Talbot. Sauf que, en fait, ils n'étaient pas du tout sur la même piste. Et ce que Fox Talbot a inventé en propre, un petit peu après Daguerre, avec le daguerréotype, semble-t-il, mais on s'en fout royalement, tu vois, on n'est pas là, hein, on n'est pas comme le maire de Paris et le maire de Londres, hein, pour les Jeux Olympiques. C'est tout à fait différent. Mais disons que Fox Talbot, il était sur une autre piste. Et ce qu'il a inventé en propre, c'est, en tout cas, en effet, la matrice même de ce qu'allait devenir la photographie, c'est-à-dire le tirage sur papier avec la technique du négatif et du positif, donc la reproductibilité. Et la grande différence qu'il y avait entre la technique anglaise, la technique de Talbot et la technique, c'était qu'en effet, on pouvait tirer à partir d'une souche le négatif, on pouvait tirer autant de photos. Donc lui s'est dit, formidable, je le fais. Et le faisant, il a choisi 24 images et il a fait un livre, qu'en fait c'est un livre qui relie des tirages entre eux. Il a fait une souscription, etc. Ça n'a pas très bien marché parce que il avait des moyens. C'était un assez riche propriétaire terrien anglais. Mais il a plus ou moins fait faillite avec cette opération-là parce que c'était trop tôt. C'était trop tôt pour que les gens se rendent compte de l'extraordinaire intérêt. Mais alors, ce qui est intéressant pour nous, aujourd'hui, quand on regarde ce livre, c'est qu'évidemment, lui, il a choisi les images, les 24 planches, il les a choisies de façon très stratégique, à la fois pour montrer les potentialités de cette nouvelle, de cet art nouveau. Et dans le texte d'introduction, qui est très beau et très modeste. C'est un récit comme ça, très plutôt rédigé dans le ton d'un curieux, etc. Il n'y a pas de fierté théorique ou de d'autoproclamation. C'est très empirique dans le bon sens du mot. Et en tout cas, on voit qu'il était sur une. Ça faisait longtemps qu'il recherchait ça. Et il y avait, comme vous le savez, pour que le photographique, ce qu'on appelle le photographique ou la photographie, mais le photographique, c'est Rosalind Krauss qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça, mais c'est juste, c'est-à-dire comme on dit le philosophique, le politique, ben on dit le photographique, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Le photographique, eh bien, dans le photographique, il y a la rencontre d'une piste optique et d'une piste chimique, hein, et c'est la rencontre des deux qui réalise la photographie. La piste optique, c'est évidemment le fait que la lumière dans sa variabilité infinie, est capable de se projeter et de s'envoyer au loin et d'envoyer et c'est connu depuis toujours puisque évidemment on le connaît par le reflet, on le connaît par l'ombre, l'interposition d'un objet dans la trajectoire de la lumière modifie l'apparence des choses et la photographie n'est qu'une variante du reflet ou de l'ombre. Enfin ça c'est une autre histoire, on pourrait développer. Et puis aussi, il y a la piste chimique qui n'est pas du tout de l'ordre d'un envoi, mais au contraire de l'ordre d'une déposition et qui, elle, repose sur un contact, un toucher des choses. On s'était rendu compte que certains papiers avaient imprégné de certaines substances. Si on déposait un objet, il laissait sa trace. Et là, toujours pareil, on est dans une logique qui est celle, par exemple, vous avez tous remarqué, quand on enlève un verre d'eau très froid sur une surface en marbre, par exemple, on l'enlève, et bien qu'on n'ait rien renversé, il y a une trace de l'existence de au moment où on enlève la chose, la trace de son passage existe. Et la photographie, elle est la rencontre de cette piste optique et de cette piste chimique. Et tantôt, ils poursuivaient l'un, tantôt ils poursuivaient l'autre, et c'est en faisant les deux, se rencontrer les deux, qu'ils sont arrivés. Donc au fond, parce que ce qui est très intriguant dans la photographie, c'est qu'au fond, c'est en faisant que se rencontrer les deux pistes, c'est qu'on va avoir une déposition à distance. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de poser l'objet sur une surface pour que la trace de l'objet s'imprime. C'est ça qui est extraordinaire et qui assigne immédiatement la photographie à un régime, pour Fox Talbot très clairement, à un régime qui est d'ordre assez magique et qui est, disons, de l'ordre plutôt de la fantasmagorie, absolument pas d'un réalisme. En fait, il balance entre les deux, mais il n'a pas le discours positiviste du « maintenant, on va pouvoir tout archiver ». Ce n'est pas tellement ça qui l'intéresse. Il a plutôt l'impression de la possibilité qu'on peut faire naître des fantômes. Mais il s'intéresse d'ailleurs particulièrement à l'ombre et particulièrement à la possibilité que la photographie a ou donne de faire exister des choses, les choses les plus légères, les choses les plus éphémères. Alors, par exemple, on lit ça dans son petit essai qui accompagne le livre. La plus transitoire des choses, une ombre, l'emblème proverbial de tout ce qui est évanescent et momentané, peut être enchaînée par les sorts de notre magie naturelle et peut être fixée pour toujours dans la position qu'elle semblait ne devoir occuper qu'un instant. Hein, c'est plutôt la piste de sa pensée, plutôt de cet ordre-là, quelque chose qui de façon très évidente, est plutôt dans une enveloppe, disons, intellectuelle qui partirait de certains aspects du romantisme allemand, de la philosophie de Schelling, et puis qui était assez présente dans la physique aussi, dans certains savants du temps avec qui il était en correspondance, etc. En tout cas, il comprend que le dessin du monde que fait le Pencil of Nature, il n'est pas du tout la reproduction de la réalité, que c'est autre chose. Et il voit aussi un hiatus complet entre c'est très intéressant ce qu'il dit à propos du pencil, un hiatus complet, disons, entre le photographique et le graphique, tout simple. Parce que, par exemple, au début, il raconte ça, il avait essayé avec une chambre noire, ça, on connaissait la façon de faire apparaître, on ne savait pas fixer, on ne savait pas garder l'image, mais on savait la faire apparaître dans la chambre noire. Et il essayait avec un système de calque, avec un crayon, de reproduire le fantôme ou le fantasme qu'on voit dans la chambre noire. Et il n'y arrivait pas. Et il dit le crayon est déloyal. Et il n'est pas déloyal, et c'est l'expression qu'il emploie, le crayon n'est pas déloyal parce que moi je suis un mauvais dessinateur. C'est parce que le crayon ne sait pas faire, n'a pas cette relation réelle qui est celle de la photographie. Et donc il fait ce livre pour essayer d'illustrer ce que peut faire le crayon de la nature, c'est-à-dire le crayon qui est loyal. Et il est complètement dans la logique de l'époque, d'ailleurs c'est la même pour Daguerre, la même au début, on appelle ça le crayon de la nature, c'est vraiment des photos faites par la nature, pas par la main de l'homme. Ils appellent ça « sun pictures », le nom même de la photographie, hein, c'est le graphène, écrire, et photo, la lumière, c'est l'écriture de la lumière. Et lui, il parle très magnifiquement, d'ailleurs, « words of light », ce sont les mots, ce qu'on voit sur les images, ce sont les mots de la lumière. Donc on est dans cette espèce de rêverie, et à l'intérieur de cette rêverie, ben, il installe, entre autres, cette image. Et il a choisi cette image de la meule de foin, puisqu'évidemment, comme objet qui est en rapport avec la lumière, c'est un objet extrêmement complexe, puisque chaque brin de paille, enfin de foin, paille-foin, chaque brin de foin comme ça, au fond, est comme un éclat lumineux différent, et qu'il dit, regardez bien, et aucun peintre pourrait le faire, etc. C'est vrai. Donc il y a ce côté de rivalité avec la peinture. En même temps, bon, je n'ai pas analysé ça trop longtemps, là, une situation d'un pas de deux où il est à la fois séduit, à la fois il pense que la photographie va faire autre chose. En tout cas, il réussit cette photo, là, et du coup, c'est une des premières photos, sans doute la première photo qui existe, ça je pense, c'est pas, j'ai vérifié, hein, donc même les historiens de la photo disent, c'est la première photo qui cadre intégralement un objet. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que l'objet dedans. Ce qui produit aussi ce qui produit au fond la modernité de cette image, parce que, disons, le rapport à l'objet n'est absolument plus celui du pittoresque. Il y a quelque chose qui est on pourrait dire, alors bon, je tire toutes les cordes vers lesquelles ça peut aller pour nous aujourd'hui, du côté du parti pris des choses, etc., etc. Et puis, de Ponge. Et puis, évidemment, l'échelle, elle est posée par lui stratégiquement. Hein, c'est chez lui, cette meule. Bon, après, je parle des meules aussi. J'ai cherché des livres. Il y a beaucoup de travail à faire pour les historiens. Il n'y a pas un bon livre sur l'histoire des meules, hein, je peux vous le dire. Mais bon. Et encore, elle a une forme incroyable. C'est un objet qui disparaît. C'est un objet qui est en train de disparaître, quasiment disparu, qui est remplacé par les rouleaux, qui eux-mêmes se modifient à toute allure. Vous savez qu'il y a 10 ans, les rouleaux n'étaient pas enveloppés en plastique. Maintenant, ils le sont. Alors, il y a eu les plastiques noirs. Maintenant, il y a des plastiques de toutes les couleurs. C'est très intéressant, toutes ces activités de stockage-là. Voilà, on est dans cette logique-là. En tout cas, donc lui, il pose l'échelle, et évidemment, elle est posée là pour l'ombre. Et puis après, comme toujours, donc j'ai été regardé dans le reste du livre, et puis il se trouve que dans le Pencil of Nature, il y a une espèce, l'échelle est une espèce d'objet récurrent, etc. Donc ça enrichissait un petit peu mon enquête, si on peut dire. Mais ce qui est venu avec la photographie, au fond, je vais parler de l'autre image après. Ce qui est venu avec la photographie, au fond, c'est que le régime que de l'image, avait été noté et constaté tout de suite, ou très tôt dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de la pensée. À mon avis, c'est ce que Platon dit qui est le plus impressionnant. C'est-à-dire, il dit que l'image est un entrelacement d'être et de non-être, puisque l'image n'est pas comme est ce livre, comme est ma main, comme est ce livre. L'image n'est jamais comme sont les étangs, comme sont les choses. Mais en même temps, elle n'est pas sans existence physique, mais elle se promène entre les deux. Et il dit qu'il parle bien de toutes les images, donc des reflets dans l'eau, des projections que sont les ombres et des images fabriquées par l'homme. Hein, donc il parle nommément de la peinture. Cette existence-là de l'image, elle a été remarquée bien avant qu'on parle, bien avant que la photographie existe. Et l'autre aspect de l'image qui est, je pense, exceptionnellement fascinant et qui crée son insistance dans notre conscience, et bien avant la photographie aussi, c'est qu'au fond, nous qui sommes toujours emportés dans le fleuve du temps, hein, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on rêve, quoi, on chemine. Cheminant, on est en train d'entraîner dans une sorte de flux, et qu'on qui a différentes vitesses, qui a des ralentissements, qui a des alternances de veille et de sommeil, qui est entrecoupé de paroles, de silence, etc. Mais l'un dans l'autre, rien n'échappe, évidemment, et c'est une banalité de le dire, mais en fait, c'est toujours intéressant à creuser cette banalité, parce que tout va. Et puis, finalement, quelque chose n'est pas porté par le temps. Quelque chose, c'est comme un copeau. Hein, si on rabote en permanence, le temps serait comme quelque chose qui rabote en permanence. Mais il y a quelque chose qui saute, du temps, qui est l'image. Car, évidemment, elle va vieillir, évidemment qu'elle va se patiner, évidemment qu'on va pouvoir ergoter là-dessus. Mais malgré tout, dans ce qui l'a fait être elle-même, dans l'espèce d'existence de l'image, il y a quelque chose qui l'attire hors du temps, quelque chose qui fait qu'elle échappe au temps. Et ces deux aspects fondamentaux de l'image, c'est-à-dire cette existence instable entre l'être et le non-être, et ce fait d'exister hors du temps, qui évidemment sont liés l'un et l'autre, il se trouve que la photographie va considérablement les renforcer, ces deux aspects. C'est-à-dire que pour ça que, par moments, j'emploie l'expression d'hyper-image, c'est-à-dire que c'est une hyper- ou super-image, je ne sais pas comment on peut dire, c'est un absolu de l'image, la photographie. Et en même temps, je pense que ce qu'elle est venue faire, ce qu'elle est venue faire est extrêmement troublant, et là, presque au-delà de toute utilisation, en deçà de toute utilisation artistique, etc., c'est qu'elle, au fond, elle correspond à une sorte de vieux, rêve. Et là, j'ai été, parce que pour nous, c'est très facile, qui avons la photographie, qui avons le cinéma dans nos mémoires, c'est très facile de nous représenter notre propre pensée comme une sorte de film intérieur, etc. Ça n'a rien de surprenant à être dit et à être entendu. C'est tout à fait commun. Mais il se trouve que, bien antérieurement à l'existence de cinéma et de la photographie, des sorts, des approches comme ça ont pu être faites qui assimilent d'une certaine façon la pensée à une espèce de dépôt ou d'imprégnation comme ça. Et ce que j'ai trouvé qui m'a réjoui, c'est que dans Plotin, donc un philosophe de la fin de l'Antiquité, c'est que dans Plotin, il y a une approche de la question de la mémoire et de la question de ce qui se dépose dans l'esprit, où on voit que c'est presque de la photographie qu'il parle. Donc il dit, Plotin, qu'il se pose la question de ce qui se souvient en nous. Qu'est-ce qui se souvient en nous ? C'est vrai, il arrive qu'on se souvienne volontairement de quelque chose, mais la plupart de nos souvenirs, nous remontent à la tête comme ça. Où sont-ils déposés ? Quelle est l'instance qui gouverne tout cela ? Ce n'est pas le sujet du cogito ou le sujet de la décision volontaire, etc. Donc, il n'y avait pas le cogito à l'esprit, mais disons, il se pose cette question. Et à un moment, il parle de la déposition des impressions sur l'âme, et le verbe qu'il emploie, alors là j'avais trouvé ça, anamaten, ce verbe, il veut dire produire une empreinte en s'essuyant sur quelque chose, comme lorsqu'on essuie ses mains sales contre une serviette propre. Et il ajoute que la façon dont les impressions se déposent sur l'âme n'exerce pas de pression. C'est-à-dire que ce n'est pas une poussée, ce n'est pas une impression, ce n'est pas une typographie, c'est quelque chose qui s'essuie à peine, qui passe à peine, mais qui laisse quand même une trace, et que cette trace est en propre ce qu'on peut appeler le souvenir. Oh, c'est assez épatant. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point la pensée de Talbot, en fait, ce que je raconte très mal là, elle est en phase. Bon, il ne parle pas de Plotin du tout, mais elle est complètement en phase avec cette espèce de vieille rêverie. Et donc, il y a un aspect comme ça. Le livre est vraiment franchement divisé en deux parties. Je dis donc, dès le départ du livre, je vais parler du rapport des deux images. Puis, première partie, une meule en plein soleil. On ne parle pas du tout ni de Nagasaki, ni de bombe atomique, ni rien du tout. On oublie presque, d'ailleurs, l'échelle. Hein. Et puis, dans la deuxième partie, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'ombre d'une échelle. Voilà. On revient en arrière et on s'attaque à la question de l'échelle, donc à la question de l'ombre projetée et à la question de ce qui est si saisissant de ce qui a fait lien pour moi d'une image à l'autre. Et finalement. Et donc là, je reviens donc sur l'autre image qui est l'image de Hiroshima. Donc il existe toute une série de photographies faites à Hiroshima ou Nagasaki, qui sont des photographies d'après la catastrophe qui montrent, elles sont peu nombreuses malgré tout, pour des tas de raisons. Et c'est un sujet assez terrible, assez complexe, et complexe à aborder même, puisque j'y fais allusion, c'est que ce sont des photographies exceptionnelles, au sens où peuvent être exceptionnelles les photographies des camps, par exemple, telles que les a analysées, avec tout ce que ça a pu soulever comme polémique, de Georges Didier Huberman dans son livre « Images malgré tout ». On peut dire que ce sont aussi des images malgré tout. Mais je me suis intéressé là, dans ces photographies, qu'à celles qui sont dans ce régime d'inscription, ou pré-photographique, ou ultra-photographique, comme vous voudrez, qui est les photographies, en fait, prises d'une certaine manière, si on peut employer cette expression, par la bombe elle-même. C'est-à-dire que le flash de la bombe atomique a été si violent que, aussi bien à Hiroshima qu'à Nagasaki, il y a eu des êtres ou des choses qui ont été imprégnées, photographiées, contre les murs. Il y a une image très célèbre d'un pont à Hiroshima où le bitume est imprégné, les ombres des poteaux du pont sont imprégnées en négatif dans le bitume. Et donc, il y a ça, il y a des photos beaucoup plus terribles que j'ai pas reproduites avec notamment les motifs, c'était en plein été, comme vous le savez, et donc les femmes portaient pour la plupart des kimonos et souvent à fleurs, et là, les motifs des tissus imprimés sont tous évidemment imprimés sur la chair, dans la chair même des êtres. Mais mon but n'était pas de pousser les choses dans ce sens-là, mais de montrer qu'il y avait, disons, dans la déflagration atomique, et quelque chose de terrible, mais qui avait à voir avec l'existence même. Du rapport au temps que nous avons à travers la photographie, à savoir la question de l'instantané. Au fond, c'est ce que montre cette photo de Nagasaki, là, cette photo de l'ombre imprimée dans le mur, c'est absolument terrible, puisque c'est le dernier instant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Il est détruit par le flash même qu'il imprime. C'est-à-dire que c'est comme si ça réalisait, par exemple, la crainte que Balzac manifestait. Vous savez, c'est Nadar qui raconte ça. Balzac disait, non, moi, il ne voulait pas être photographié, parce que pour lui, l'homme était comme une espèce d'énorme oignon fait de plein de peaux successives. Et le fait d'être photographié, ça allait enlever une peau, la peau la plus extérieure. C'était comme de... Hein, il le pensait vraiment, c'est une pensée magique. Et donc, il y avait, au fond, ce que vient faire l'éclair ou l'éclat ou le flash de la bombe atomique, c'est, au fond, donner corps à cette pensée, à cette espèce de pensée magique, de telle façon que cette photographie nous représente à la fois un absolu de la trace et quelque chose qui est l'extrémité de ce à quoi peut atteindre la photographie. Et donc, en même temps, moi, m'intéresse, et par rapport à ce que je vous disais au tout début de la question de l'immobilité de l'image, de son régime d'existence et le fait qu'elle est sortie du temps, évidemment que la question de l'instant, la question, pour ça que le livre s'appelle comme ça, l'instant et son ombre, évidemment que la question de l'instantané, elle me passionne. Donc vous savez très bien que l'instantané n'est pas venu instantanément à la photographie, qu'il a fallu toute une série d'améliorations techniques pour y parvenir assez vite en fait, et qu'il y avait des temps de pause relativement élevés, etc. Mais de toute façon, la présentation de l'image faisait toujours qu'elle a l'air, même si elle n'en est pas un, elle a l'air d'une espèce d'instantané. Et c'est très trompeur parce que, en fait, ce qui m'intéresse, ce sont en fait que dans aucune photographie, à mon avis, même si toutes les photographies sont immobiles et égales les unes par rapport aux autres en fixité, en immobilité, en fait, du temps, en sortant du temps, c'est quand même si on ne prend rien au temps, le temps, ça lui fait rien qu'on s'isole de lui. Mais en même temps, du temps a été pris. On dit temps de pause. Mais ce temps de pause, c'est quelque chose qui a été pris au temps. Et au fond, une photographie, bien qu'elle soit immobile, bien qu'elle soit sortie du temps, elle contient du temps. Et c'est pas seul, bien qu'elle ne soit évidemment pas un art de la durée. Et ça, j'avais déjà pu, ayant beaucoup travaillé sur la peinture, constater qu'il y avait des temporalités différentes de tous les tableaux, qu'il y a du temps dans une nature morte de Chardin qui n'est pas du tout le même temps que dans une scène de bataille. Je prends un exemple très grossier pour être bien clair, mais on pourrait subtilement même trouver que peut-être il n'y a pas la même quantité de temps d'une nature morte à l'autre, etc., de temps capté, de temps captif, si on peut dire. Eh bien, dans la photographie, c'est exactement pareil. Et disons, il y a une sorte de vertige à partir du moment où on pense l'instantané, parce que, comme vous le savez, l'instant est par définition insaisissable. Hein. Si l'instant n'est pas, on ne peut pas attraper l'instant, on ne peut pas saisir le présent. Le présent, c'est ce dont on ne se saisit pas. Le passé non plus, d'ailleurs, mais le passé, disons, on le sent derrière soi. Et l'avenir, on le sent devant soi. Et la césure, nous ne sommes que la césure entre le passé et l'avenir, mais c'est une césure mobile, donc c'est complètement affolant. Et ce qu'a toujours fait l'image, au fond, c'est quand même presque... D'un côté, c'est rassurant parce que ça fait des repères, des marques le long de c'est-à-dire, on arrête cette césure mobile et on la dépose hors du chemin, comme ça, comme le petit poussé avec ses cailloux. Puis d'un autre côté, c'est affolant parce qu'à l'intérieur de la césure elle-même, il y a un abîme, un vertige. Et c'est un petit peu tout ça que j'ai essayé de comprendre dans ce livre. Avec, c'est vrai, de ma part, il y avait évidemment, alors que je n'étais pas forcément préparé à ça, ça m'a conduit à explorer, disons, l'essence même de ce que peut être la photographie ou le photographique, donc à travailler un petit peu sur ce médium auquel je suis beaucoup moins familier que celui de la peinture. Et en tout cas, j'ai été, en écrivant ce livre, j'ai été emporté comme ça par une espèce de joie de la découverte, mais qui en même temps correspondait à ce qui est formidable dans la photographie, je pense, c'est que les usages savants et les usages populaires sont à peu près se recouvrent les uns les autres. Il n'y a pas véritablement de séparation. Thank you.
commencement, Jean-Christophe, j'étais parti sur la question de la mémoire, donc ce qui serait peut-être l'essence de la photographie ou quelque chose de cet ordre-là, et les régimes traditionnels d'historicité. Et je voudrais que tu nous parles de cette question-là, justement, de la question de ce qui vient hanter, la question de la survivance, la question de... Et quand tu parles, effectivement, du commencement de la photographie, il y a quelque chose que tu pressens comme catastrophique.
C'est difficile. Je pense que c'est la catastrophe fait partie du photographique, oui. Dans la mesure où c'est une interruption. Bon, et tous les commentateurs ont remarqué ça. Quand Bataille parle des portraits de famille, par exemple, sur les cheminées au 19e siècle, et cette manière de. Bon, et puis le lien obligatoire, connu en dehors de la photographie, mais que la photographie augmente, le lien du portrait à la mort, etc. Donc il y a ce lien de du photographique au catastrophique. Il est manifesté et c'est toujours très frappant de voir à quel point on l'oublie, puisqu'il y a une espèce de joie aujourd'hui, en plus avec le numérique, il y a une espèce de joie photographique, comme ça on photographie comme on respire, mais en même temps évidemment on se donne pas la réflexion qui fait qu'on a arrêté du temps. C'est d'ailleurs extraordinaire, ça sera analysé dans un autre mouvement, le numérique, c'est-à-dire cette capacité qu'on a d'arrêter le temps à tout moment, puis d'effacer l'arrêt, etc. Enfin, de travailler presque à vivre dans la chair du temps. Et en même temps, je pense que fondamentalement, c'est la même chose depuis le début, en effet, oui. Et il me semble que Fox Talbot, il a compris ça tout de suite. Mais en même temps, lui et les autres, à ce moment-là, ils étaient quand même dans un mouvement d'effusion. Ils ne voyaient pas ce qui venait au fond avec cette capacité de retenir les ombres, hein. Et bon, je vais peut-être lire un petit passage parce que ce sera plus clair, parce que pour te répondre là, frêle signe existant que quelque chose a existé devant elle avant qu'elle ne le marque, la photographie agit directement et silencieusement comme ce qui sait ou peut faire retentir le cœur signifiant des choses. Le cœur signifiant des choses, c'est une expression que j'employais en citant James Agee, qui avait fait ce magnifique travail avec le photographe Walker Evans au moment de la Grande Dépression aux États-Unis. C'est juste après avoir évoqué cet état de conscience entier ou cette capacité à toucher et à rejoindre le cœur signifiant, question qu'il pose à l'écrivain, Kadji dit que la caméra est l'instrument central de notre temps, celui qui, juste après l'état de conscience désarmé et sans appui, est ou serait capable d'aller au-devant de cette sorte d'effacement, de cette sorte d'innocence. Un rayonnement est ce qui en est le recueil, oui, cela convient sans doute à cette image de la meule de foin, aussi à ce qu'il y a en elle de trembler, à tout ce qui, malgré son extraordinaire tenue, s'en va et susceptible de s'en aller. Telle serait justement l'innocence de l'outil ou la loyauté du crayon, que rien de ce qui vient dans le rayonnement que capte la photographie ne puisse être entièrement visible, et qu'il y ait donc dans le cachet que la surface présente une recharge de sens inépuisable. Le noir de l'aveuglement au bout de l'ombre et l'explosion d'un noyau de lumière au bout des reflets solaires éparpillés sur les biens bruns d'herbe sèche. Bien qu'aucun danger direct ne menace la meule, qui est même plutôt pleine d'allant dans l'ordre du paisible, mais cette apparence paisible n'est elle-même qu'un mode du rayonnement qu'est l'existence, et toute existence comporte la possibilité et la nécessité de sa ruine. De même, une ombre s'esquisse sous tout advenir de lumière, et de cela, toute ombre portée est la preuve. Parce qu'elle est aussi, à sa façon, une ombre ou le dépôt d'une ombre, toute photographie est le souvenir d'un rayonnement, d'une occurrence de rayonnement et la prémonition d'une ruine ou d'un effacement. Continuellement dans l'histoire de la photographie, on peut suivre cette piste-là, et elle devient peut-être plus précise au moment où la photographie rencontre en effet l'instantané. Mais bon, tout est analysé là, par exemple, j'en parle un peu dans le livre aussi, les extraordinaires premières photos des boulevards, celles du boulevard du Temple de Daguerre. Et puis il est venu faire presque la même Talbot à Paris, sur le boulevard de Bonne Nouvelle, un peu plus loin, pour vérifier. Et il n'arrivait pas, comme vous savez, les êtres mobiles, les passants, les chevaux disparaissaient, comme on fait comme on peut faire aujourd'hui avec une simple chambre noire, ce qu'on appelle un sténopée, ce qui est mobile ne s'imprègne pas, reste uniquement l'immobile. Et des fois, il y a comme ça des sortes de moirures, des sortes de voilages faits par le vivant. Et puis finalement, après, il a fallu attendre pour pouvoir attraper le vivant. Et il y a des faux comme ça, des faux instantanés, notamment, j'en parle, cette magnifique photographie de Charles Nègre, qui est très connue, hein. Photographie Charles Nègre, bon, qui fait, je le dis aussi dans le livre, fait énormément regretter que Baudelaire ça a été trop tôt, il n'a pas pu attraper la photographie, mais c'est un des plus baudelairiens tableaux qui existent, cette photographie de Charles Nègre là, les trois petits ramoneurs qui marchent le long des quais de la Seine. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est pour ça toujours les ouvrages d'historiens et de spécialistes sont quand même toujours très très utiles, c'est qu'en fait cette photographie c'est un faux instantané, c'est-à-dire qu'il pose, il les a fait répéter l'air d'avoir de ramoneurs en train de marcher. Parce que s'ils avaient véritablement marché, en 1851, il n'y avait pas techniquement les moyens de l'imprégnation. C'est-à-dire que l'idée de l'instantané, elle est si forte dans l'installation même du photographique qu'on fait des faux instantanés avant de savoir les faire. Donc l'idée, elle est bien celle-là. Elle est bien celle de... Voilà. Et au-delà du photographique, donc il y a même... Donc c'est un livre de réflexion, oui, sur l'image, c'est-à-dire comment l'image fixe est à la fois, comme je disais, c'est-à-dire quelque chose qui nous rassure parce que elle est fixe, elle bouge plus, à la différence de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui fait qu'on est vivant. D'une certaine manière, elle est impérissable, alors que nous sommes dans le mouvement du périr, dans le mouvement du périssable, comme tout ce qui est vivant, organique. Elle n'est pas comme ça, mais en même temps, justement parce qu'elle n'est pas comme ça, elle est comme un... Elle a quelque chose du fantôme, quelque chose qui a à voir avec l'effroi.
Parce que tu as travaillé beaucoup sur la question de la peinture avant, pensant à l'atelier infini. Qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé avec l'apparition de la photographie quant à la peinture?
Dans l'ensemble, c'est un chantier qui reste complètement mal inexploré, bizarrement. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites comme ça au niveau d'une petite histoire. Par exemple, le cas Baudelaire est assez bien étudié, comment il a réagi à la photographie. On essaye d'expliquer pourquoi il s'est à la fois dressé contre elle, tout en parlant de la sorte contre elle, il a dit des choses très intéressantes à son sujet, etc. Puis comment peu à peu elle a fini par arriver. Après, comment la photographie elle-même s'est mise dans une position dans une posture de faire l'artiste avec le pictorialisme, etc. Tout ça est assez bien exploré, mais à mon avis, il reste énormément à dire sur la face. Et c'est pour ça aussi que c'est très important le livre de Talbot, parce que lui-même il installe les choses, il fait partir la photographie d'une impossibilité manuelle. L'homme n'est pas capable de produire ces images-là. Ces images-là sont ainsi, et cette exactitude, cette loyauté, c'est l'expression qu'il emploie, cette loyauté, hein, ça pose énormément de problèmes d'ailleurs, à tous égards. Aujourd'hui, c'est une question constante de la relation philosophique sur l'image, s'il y a de la loyauté possible avec les images photographiques ou les images, bon, etc. Mais lui, pour lui, on est dans cette loyauté, et de cette loyauté, la photographie seule est capable, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans un régime qui est déjà complètement différent de la peinture. Mais en même temps, on voit très bien dans l'autre image du livre qu'il fait servir cette loyauté à une imitation de la peinture, par exemple. Et il y a des scènes de genre, il y a des natures mortes comme ça en montrant. Mais en même temps, voulant montrer une capacité du photographique, il le fait exprès ou pas, il montre un écart. Et cet écart, il va travailler de mille et une manières. Alors, qu'il y ait une influence au départ de la peinture, il faut bien se mettre à la place, sur la photographie, c'est évident. D'autant plus qu'en termes pratiques aussi, la plupart des praticiens de la photographie au début, c'est le milieu des ceux qui vont faire ça, c'est le milieu des artistes, c'est le milieu des rapins. Et puis plutôt les pas très bons aussi, ils se voient comme ça, crayon, hop, ils vont aller vers ça. Il y a tout un bricolage qui se fabrique comme ça. C'est assez joliment raconté d'ailleurs dans un roman américain de Nathaniel A. Hawthorne, qui s'appelle La maison aux sept pignons. C'est le premier livre de l'histoire de la littérature dont le héros est un photographe. Je le dis parce que c'est marrant. C'est drôle à lire là-dessus. ça s'installe bien cette chose-là. Il y a énormément de choses qui sont à penser, à mon avis encore. Et à partir de quel moment la photographie est acceptée comme art. Et puis là, même ça, il y a une histoire aussi qui est aujourd'hui, vous savez, on parle de photographie plasticienne, qui est une expression, à mon avis, pas du tout au point. Mais la photographie plasticienne, c'est autre chose que la reconnaissance de la photographie comme art. Ça vient encore en plus, et ça vient dans un rapport à la peinture, à la picturalité, aux images, qui est encore différent, qui transite aussi par les images mobiles. Il y a toute la question invraisemblablement compliquée du rapport à ce que Deleuze a appelé l'image mouvement. Mais pour revenir à ton histoire de, par exemple, dans le livre, j'ai un petit moyen d'aborder la question qui est la meule elle-même. Puisque, comme vous le savez, parmi les nombreuses séries qui ont fait l'œuvre de Monet, qui ont fait de l'œuvre de Monet ce qu'elle est, l'une des plus radicales, c'est la série des meules. Hein. Et qu'est-ce qui intéressait Monet dans les meules? C'est justement la façon dont cet objet très complexe, qui est structurellement complexe avec la multiplicité et l'enchevêtrement compact, un enchevêtrement compact de brins. Évidemment, de la façon dont ça réagit à la lumière. Et c'est pour ça qu'il a peint toutes ces meules en été, en hiver, etc. Qui ne sont pas les mêmes meules, c'est des meules de plein champ, ce n'est pas une meule de stockage énorme comme celle de la ferme anglaise, là. Mais disons, en tout cas, c'est quand même le même objet et aussi la même époque du monde, d'une certaine manière. Donc une époque aussi qui est une époque d'un certain état, un certain âge de l'agriculture. Et en tout cas, dans les meules de Monet, elles ont même joué un rôle très important dans l'histoire de l'art moderne en général, puisque ce sont elles, par exemple, qui ont, c'est Kandinsky qui le raconte, mais je rappelle que cela, c'est que Kandinsky à Moscou, en voyant une meule de Monet, il était professeur de droit, vous savez, Kandinsky, à l'âge de 30 ans, et il s'intéressait à la peinture. Et il décide, c'est-à-dire c'est la conjonction de cela et d'une visite qu'il a faite pour étudier le droit coutumier dans les provinces du Nord, où il a vu l'art populaire, c'est la conjonction de cette vision de l'art populaire et de la meule de Monet qui le décide à tout arrêter et à partir à Munich pour faire le peintre. Et donc il y a quelque chose, la meule de Monet qui produit ça. Alors bon, j'essaye de montrer qu'en fait, qu'est-ce que voulait Monet avec la lumière, qu'est-ce que Monet voulait. C'est que je pense que ce que fait Monet avec les meules et ce qu'il a fait en règle générale, comme impressionniste et comme le plus théorique de tous les impressionnismes, il n'était pas du tout un théoricien, mais il avait une approche. C'était un peintre, bon, ça paraît bizarre aujourd'hui, puisqu'il est surtout les calendriers des postes, etc. Mais c'est un peintre expérimental, Monet, ça qui est intéressant. Donc, ce qu'il essaye de faire avec les meules, ça ne serait pas compréhensible s'il n'y avait pas eu la photographie. Et mais c'est pas simplement comme ça des régimes d'imitation ou des régimes de rivalité, c'est plutôt comme des vases communicants assez secrets. Et c'est dans cette mesure-là, bon là je le fais juste à propos des meules, c'est dans cette mesure-là que je peux me permettre de dire qu'à mon avis, il y a quelque chose d'un chantier à venir. Ce qui intéressait Monet avec elle, donc les meules comme avec les autres motifs, c'était la variation lumineuse, ou plus précisément la façon dont l'être d'un objet ou d'une configuration d'objet, d'un paysage, est à chaque instant affecté différemment par la lumière. La quête la plus propre de l'impressionnisme, telle que permet de la définir la constance tendue de Monet, est donc elle aussi une affaire d'arrêt et de devenir une affaire de temps. Comment saisir le passage? Comment retenir ce que nomme justement l'impression, nécessairement fugitive, purement passante? Ce qui veut dire que le souci fondamental de Monet, que la brièveté de vie des états de lumière affolait, est au fond très proche du souci originaire de la photographie telle que le décrit Talbot. Et l'on pourrait même en ce sens définir son entreprise, à Monet, comme la tentative de tenir à la place de la nature et mieux qu'elle, le crayon de la nature, comme l'effort d'impressionner, c'est le mot, mieux qu'elle encore et plus vite, que l'impression fugace, fugitive, s'imprime et devienne en un autre sens une impression grâce à la poussée picturale, pour reprendre la notion plotinienne, qui faisait état d'un toucher, d'une action, et qui aurait donc directement ici le sens de ce qu'on appelle en peinture la touche. Hein. Et évidemment, d'ailleurs, on est là, c'est assez précis, puisqu'au fond, quand Plotin disait que les impressions se déposaient sur l'âme sans appuyer, hein, Le pinceau appuie toujours. Le pinceau aussi, il a, et cette espèce de côté pâteau du pinceau, c'est ce qui horripile tellement Monet aussi. Hein. Il est un peintre sans, toujours mécontent. Mais en tout cas, là sur cet objet précis de la Meule, on voit, enfin, ça m'a permis, disons, de relever, disons, cette espèce de contamination d'un art par l'autre. Hein. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de penser en termes de simple rivalité. Disons que, d'une certaine façon, la peinture figurative de l'âge de la représentation, elle se tenait magnifiquement à carreau, c'est-à-dire magnifiquement à une certaine distance du réel. Hein, et que, finalement, on pourrait raconter, ce n'est qu'une image et ce n'a que la valeur d'une allégorie, mais on pourrait raconter la venue de l'art moderne comme un peu le mouvement par lequel les peintres, de plus en plus intrigués au fond par le sujet même ou le motif, ont écarté tout ce qui les séparait du motif. Donc d'abord, disons, le grand genre avec ses écritures dogmatiques, le rapport à l'illustration d'un dogme religieux, etc. Puis on en est venu par les biais à l'objet lui-même, etc. Et c'est un petit peu comme si on avait ouvert la fenêtre, la fameuse fenêtre d'Alberti, puis qu'on était descendu dans le jardin, puis on s'est rapproché. Et l'œuvre de Monet, elle est d'ailleurs incroyable. À l'aide, presque à l'aide aussi de sa myopie, il se rapproche tellement. Hein, quand on fait le chemin, parce que comme il a vécu très vieux, c'est plus pratique de faire le cheminement. C'est pas ce que Seurat serait devenu, hein, il est mort à 32 ans. Mais Monet, on voit. Donc, et quand on regarde les premiers tableaux qui sont à peine démarqués de ceux de Manet, qui sont, disons, dans des schèmes figuratifs amples, mais complètement identifiés et identifiables, on est à la fin avec les nymphéas dans une peinture quasi. Elle n'est pas abstraite, mais elle est quasi abstraite. Et c'est comme si le monde était brusquement regardé de tout près. Et c'est ça que j'appelle fusion et fusion avec le réel. Mais par sa structure même et par sa nature, la photographie ne peut pas se permettre. La photographie est sans toucher. La photographie ne peut pas se permettre la fusion et l'effusion. Elle est non fusionnelle et sans effusion. C'est sa caractéristique majeure. Elle peut produire, évidemment, des images terribles. Il y en a qui s'en privent, beaucoup ne s'en privent pas. Mais en même temps, ce qui va constituer le caractère terrible, inoubliable, obsédant d'une photographie, par exemple, ce sera aussi la façon dont elle tire le rideau froidement et sèchement sur cela même qu'elle montre. Elle ferme tout autre, elle se ferme à toute autre chose et elle n'est pas une approche, elle ne peut pas être une approche. C'est ça qui la rend, disons, qui la suspend dans, oui, une espèce d'idéalité. Et on voit très bien comment dans l'art moderne, il va y avoir finalement un écartement entre les tendances et que finalement une grande partie de ce qui va constituer l'art moderne va être l'au-delà des nymphéas, etc. Bon, avec tout ce que sur la peinture qui devient elle-même son propre absolu, etc. Mais qui est dans l'au-delà d'une obsession du toucher. Et si on prend l'une des extrémités que cela peut atteindre, on voit très bien qu'à la fois c'est une extrémité. C'est quelque chose qui a à voir avec une volonté de toucher, d'étreindre, et en même temps que ça conteste l'aspect fini de l'image. Par exemple, l'action painting, les fameux tableaux de Jackson Pollock, la façon dont il les peignait même dans cette espèce d'extraordinaire danse extatique, c'est la volonté de faire, d'aboutir à quelque chose qui va s'appeler un tableau peut-être, mais qui ne sera pas une image, qui ne sera pas du temps bloqué, qui ne sera pas du temps gelé. C'est cette volonté-là, et ça, on est à l'extrémité d'un désir de captation et fusion, et physique, et toucher, et de soi à soi, de soi avec le monde, et on est dans cette extrême violence-là. Et à l'opposé, je pense, existe une autre violence, qui est la violence de l'éclair photographique, qui est, voilà, et que l'histoire de l'art moderne, d'ailleurs, s'installe entre ces deux violences-là, et elle circule de l'une à l'autre. Et que presque, j'ai pensé l'autre jour, parce que, à cause des histoires de la figuration narrative à Paris, j'ai pensé à ça, et qu'au fond, il n'y a pas une bonne image et une mauvaise image. C'est-à-dire que, d'ailleurs, en plus, j'ai eu l'occasion d'en revoir récemment à New York les grands Pollock, sont vraiment bouleversants. C'est-à-dire, c'est peinture fraîche. Enfin, il y a un côté, il vient de finir de danser, quoi. Hein, c'est quand même. Mais en même temps, je dis ça, c'est pas vrai, parce que c'est surtout pas comme ça. C'est surtout pas comme ça. C'est. On est devant quelque chose d'énorme, en tout cas, ça, c'est indéniable. Mais par exemple, vous savez comment Pollock est mort, puisqu'il buvait beaucoup, etc. Et il s'est foutu en l'air dans un arbre, oui. Il est mort. Un accident de voiture, comme ça, une nuit, comme ça. Et d'une certaine façon, il y a un des tableaux de Warhol les plus forts. Ça représente évidemment pas l'accident de voiture de Rauschenberg, mais c'est un des premiers, c'est le car crash, c'est l'accident de voiture qu'il a peint à sa manière et reproduit à sa manière. Et ce que Warhol a fait, c'est au fond d'essayer de avec les moyens de la peinture, de tirer entièrement la peinture du côté de cette neutralité, de cette froideur photographique, donc à l'opposé. Mais en même temps, c'est par le biais anecdotique de l'accident de voiture, finalement, d'une certaine façon, on a... La dernière peinture faite avant et presque le témoignage de l'accident et finalement on est dans des validités d'image dans des capacités de retenue d'expérience qui sont énormes dans un cas comme dans l'autre, je pense. Moi, les deux me fascinent et que les deux régimes puissent exister simultanément, je trouve ça extraordinaire.
Il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'au départ, enfin, c'est la question du détail et de l'insignifiant dans la photographie. Qu'est-ce que nous montre la photographie qu'on ne voit pas si on est vers... qu'on ne voit pas ? Il y a beaucoup de choses que nous montre une photographie que si on avait vu le même paysage au-devant de nous, on y aurait prêté la plus grande attention, on ne l'aurait pas vu. Qu'est-ce qu'elle nous dévoile qu'on ne voit pas ?
Oui, parce que ça, il le remarque très tôt justement aussi. C'est une autre piste aussi. C'est ce que Benjamin après a appelé l'inconscient, lui optisches unbewusst, l'inconscient optique. Mais c'est en effet, et Talbot le fait remarquer. Là aussi, je ne vais pas trouver la citation évidemment, mais elle est dans le livre. La citation de Talbot dans laquelle il est épaté par le fait que quand on photographie, on photographie un sujet, mais après au tirage, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues. Et cela fait partie du charme de la photographie. C'est lui qui dit tout ça. Que le photographe lui-même découvre en examinant ses images, et ce parfois longtemps après, beaucoup de choses qu'il n'avait pas remarquées au moment de la prise de vue. Parfois, on découvre des dates ou des inscriptions sur les bâtiments ou encore des affiches dont la présence sur les murs paraît tout à fait incongrue. Parfois, encore, un cadran dans le lointain sur lequel, inconsciemment, on a enregistré l'heure de la prise de vue. Oui. Oui, j'ajoute, l'empirisme flegmatique de Talbot pourrait une nouvelle fois masquer l'ampleur de la qualité intuitive de son propos. C'est en tout cas dès l'enfance de l'art photographique que cette propension à s'imprégner de la totalité du réel aura été remarquée. Mais ce qui a le plus souvent été perçu de façon négative, attitude que le propos de Delacroix qui parle d'une copie fausse en quelque sorte à force d'être exacte résume parfaitement, ce défaut est converti en une sorte de latence encore à venir, par-delà l'image latente réalisée, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui a énormément intrigué, le fait que évidemment on attrape énormément de choses. Alors évidemment, il y a deux pistes qui sont à suivre là. C'est une piste, disons, qui est plutôt de l'ordre de l'indice, de l'enquête, comme ça, le commissaire machin. Hein. Et c'est magnifique. D'ailleurs, c'est le sujet du film génial de Antonioni qui s'appelle Blow Up. Hein. Voilà. C'est vraiment un grand film théorique sur la photographie et la peinture et l'image. C'est un très, très grand film. Mais c'est ça, le sujet. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est dans l'inconscient optique, il y a toutes les raisons alors là, pour lesquelles on s'est mis à photographier cela. C'est-à-dire que quelque chose de l'ordre du sujet... existe même malgré cette neutralité, quelque chose de soi existe dans l'image que l'on prend à ce moment-là. Et toujours aussi, il y a derrière tout cela la question qu'on néglige presque à force, mais c'est qu'en fait, on est dans des régimes du noir et blanc, on est dans le régime du noir et blanc. Donc de toute façon, on est forcément dans quelque chose qui n'est pas l'image de la réalité. J'en parle dans le livre aussi, d'ailleurs, en le rapportant d'ailleurs à des choses... de Gérard de Nerval, etc. Ça aussi, c'est possible pour ça que je le cite, ça fait peur, que vous savez que le dernier mot que Gérard de Nerval a écrit, donc chez sa logeuse, qui était sa tante, plus ou moins, il a dit « Ne m'attends pas, car ce soir, la nuit sera noire et blanche. » Et il n'est jamais revenu puisqu'il s'est pendu. « Car ce soir, la nuit sera noire et blanche. » Et même en vous le disant, ça me fait peur. Et il y a quelque chose de cette peur dans le spectre extraordinaire des images du photographique Et ça, c'est attrapé très bien par cette histoire d'inconscient visuel, même si en apparence, on est dans la campagne anglaise, sans meurtre pour le moment.
C'était un entretien avec Jean-Christophe Bailly à l'occasion de la parution aux éditions du Seuil de L'instant et son ombre. Entretien proposé par la librairie Le Livre à Tours et animé par Laurent Évrard. Retrouvez À bout de souffle sur internet www.audioblog.arteradio.com/a-bout-de-souffle. Musique Fred Fritz et Dominique Vasseur.